Bonjour mes frères et sœurs, ça va bien ce matin?
Bien, bien, moi aussi, ça va super bien. On est content de revoir les Alain et Catherine qui sont tout bronzés là, qui reviennent de vacances. Ça fait plaisir de vous voir. On va pas vous voir longtemps parce que nous partons là, mais nous allons pas partir longtemps. On revient vendredi dans l'après-midi, mais juste pour aller tremper les pieds dans l'eau. Enfin, pas moi, je déteste ça. Moi, la douche, ça suffit, l'eau, à part ça, non. Mais voilà, il y a la famille, on est tout content. Que Dieu soit béni. Matthieu, on va lire Matthieu chapitre 1, verset 23. Les salutations de notre sœur Michel qui ne peut pas être là ce matin. Et aussi Thierry, Natalia qui ne peuvent pas être là ce matin. Simone qui n'est pas là parce qu'elle est partie en train hier. Elle a couru dans cette gare, mais quelle horreur. C'était terrible. Enfin, elle a réussi à avoir son train. Le train est parti 5 minutes en retard pour la laisser monter dans le train. C'est gentil. Enfin, il y avait un gentil et un pas gentil dans les contrôleurs. Mais le gentil était très gentil, que Dieu le bénisse. Il a retardé le train, c'est super. Il sera béni pour ça. Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères. Je ne vais pas vous prêcher sur la Trinité, vous dire que Jésus c'est Dieu avec nous, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que voilà. Je ne vais pas vous prêcher ça ce matin, alors que je pourrais, c'est un verset tellement magnifique sur l'unité de Dieu. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, je voudrais vous dire, est-ce que vous pouvez vraiment concevoir que Dieu est votre partenaire? C'est ça que je voudrais vous dire ce matin. Parce qu'il y a des grandes vérités qui sont enseignées au travers de toute la Bible, mais une des plus grandes, c'est que Dieu est avec nous, même qu'il est en nous. Dieu est partout, c'est vrai, donc qu'est-ce qu'il y a d'étrange qu'il soit en nous? Parce qu'il n'y a pas un endroit où il ne peut pas être. Si on, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ben, c'est de ne pas être quelque part. Il est partout. Jésus a dit, mais il a dit qu'il voulait particulièrement vivre en nous qui l'aimons. Il nous dit cela pour nous faire comprendre que non seulement il est partout, qu'il remplit tout en tout, mais que particulièrement, il est avec nous, pas seulement dans le sens de quelqu'un qui se tient à nos côtés, non, mais plus précisément dans le sens qu'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Vous voyez, mes frères et sœurs, il est avec les incrédules. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas avec les incrédules? Il est partout. Et les incrédules, il y en a de plus en plus, Donc il est avec les incrédules, il est avec les voleurs, avec les violeurs, avec les assassins, il est avec tout le monde, mais pas dans le sens d'être d'accord avec eux, pas dans le sens d'être leur partenaire. Il n'est pas avec eux dans le sens d'être leur partenaire. Il n'aime pas le péché, il ne peut pas être en accord avec ceux qui le pratiquent, il est plutôt contre eux. Amen. Par exemple, s'ils réussissent dans leurs affaires, eh bien, si leurs affaires sont frauduleuses, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Il y en a qui pensent parce que, on leur fait croire que l'abondance est la bénédiction de Dieu. Pas toujours. Pas toujours. Par contre, il est avec nous, en partenariat, il est avec nous. Avec vous qui avez été lavés par le sang de Jésus-Christ, purifiés, maintenant il vous voit pur. Même si vous arrivez de pécher, vous venez devant Dieu, vous lui dites votre péché, il vous purifie, il vous lave, il vous relève, et il est toujours avec vous, il n'est pas fâché, il est avec vous. Et si vous pensez quelque chose de faux, eh bien, au sujet de quelque chose, il est avec vous pour vous corriger en vue de votre bien, il mettra le temps, il ne va pas brusquer les choses, il va faire les choses gentiment de façon à ce que vous puissiez le supporter selon votre mesure de foi, comme je vous parlais vendredi. J'espère que vous avez bien aimé la prédication de vendredi. Il est là comme un père. Et avec certains, il est là comme un père, mais aussi comme un ami, avec certains de ses disciples, avec ceux qui lui obéissent, avec les disciples Jean 15, 14. Il n'est pas avec tout le monde, comme avec les disciples Jean 15, 14. Et je vais vous expliquer un peu ça. Parce que nous soyons des enfants immatures ou que nous soyons des enfants mûrs dans les choses de Dieu, il est avec nous, nous pouvons lui parler, nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons obtenir son aide, sa protection. C'est un enfant de Dieu immature, il va avoir besoin même de plus d'affection que celui qui est mûr. Mais il aura aussi besoin de plus de correction, il aura besoin de plus de protection, parce qu'il va faire des bêtises et Dieu va être obligé de le protéger. Regardez le petit Timothée. Il a besoin de plus de protection que Dominique. On ne va pas dire, non, fais pas ci. Dominique, il sait très bien ce qu'il ne faut pas faire. Mais notre petit Timothée, il a 15 mois maintenant. Depuis le temps que je dis 14 mois, maintenant c'est 15. Un enfant de Dieu immature ne sera pas accepté, par contre, dans le cercle de ceux qui sont tenus au courant des choses de Dieu, de ses plans. Ils sont immatures et ils n'y comprendraient rien. Et puis, en plus, ça pourrait les troubler. Donc, Dieu les laisse avec des petits jouets. Alléluia, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient, il va vous donner abondance, il va vous guérir, il vous aime, nanana. Et puis, ils ne vont pas plus loin. Et ils disent... Oh, mais vous compliquez tout. Oui, on complique tout, c'est vrai. Ils sont immatures, ça ne sert même à rien de leur expliquer. Mais ils ont autant que nous, sinon même des fois plus, accès à sa bonté, parce que Dieu les chouchoute, Dieu les chouchoute. Ils ont droit à son soutien, à sa bienveillance, il les instruit dans la vérité progressivement, autant que les enfants de Dieu qui ont atteint une pleine maturité. On n'a jamais fini d'apprendre et Dieu nous apprend continuellement. Le Saint-Esprit est là pour nous guider dans toute la vérité, n'est-ce pas la vérité? Un enfant immature, il aura besoin d'aide pour les choses de base. Par exemple, pour manger. Moi, je prends mon couteau, ma fourchette et puis hop, Timothy, mon petit-fils qui a 15 mois, il faut lui donner encore un peu la béquille parce que bon, il se sert de sa fourchette, mais alors il en met plus par terre que... C'est rigolo! Non, c'est pas rigolo? Bien sûr, c'est rigolo. Et quand on voit les chrétiens immatures, très souvent, c'est rigolo. Alors on se retient de rire parce que si on rit, après, ils vont se vexer, n'est-ce pas? Donc on fait rien, on dit rien. Un enfant immature, il a besoin d'aide pour les choses de base. Et le père n'aidera l'enfant qui a développé une maturité, il l'aidera pas de la même manière. Il peut plus compter sur lui. Il va plus aider les bébés spirituels que les autres. Il y a certains chrétiens qui disent, au début, c'était... Puis maintenant, c'est plus pareil. Mais évidemment, il arrive un âge où on s'occupe des affaires de notre père en tant que fils. Timothy, mon petit-fils, c'est le fils de Mélodie et Eric Jacques. Mais c'est un bébé. Quand il aura 15, 16, 18, 20, 22, 20, 30 ans, ça ne sera plus le bébé, ça sera toujours fils, mais ça sera différent. Vous comprenez, les frères et sœurs? Un enfant de Dieu qui est mûr, alors il s'occupe des affaires de son père avec sérieux, avec constance, avec droiture, on peut compter sur lui. Un enfant de Dieu qui est immature, mais il va agir avec immaturité. Mais c'est normal, c'est la nature. On ne va pas compter sur un bébé. Si vous demandez, encore une fois, à mon petit-fils, écoute, va à la cuisine me faire chauffer une tasse de thé. Mais c'est l'horreur, on ne peut pas compter sur lui. Ce n'est pas que c'est un imbécile, ce n'est pas que c'est un méchant, ce n'est pas que c'est un crétin. Il a 15 mois, vous voyez? Alors, on est tout autant, tout content de voir un bébé quand il commence à faire des progrès, quand il commence à se rendre compte qu'autour de lui, ce n'est pas simplement une maman qui donne à manger, un papa qui donne les jouets, là, qui donne... Vous voyez ce que je veux dire? Quand il commence à donner quelque chose, un bisou, il veut partager avec vous ce qu'il est en train de manger, et ça, c'est ce que Timothy est en train de faire depuis quelque temps. Ça fait très plaisir parce qu'on s'aperçoit que il n'y a plus que sa petite personne, il y a tout le monde qui est autour, il s'en rend compte, il prend conscience et il veut faire plaisir, il veut donner. Alors on est tout content de voir un bébé qui se montre généreux, qui va commencer à donner ses jouets, ceux qui ne donnent pas leurs jouets. C'est un signe d'immaturité, mais le signe qu'il grandit, c'est justement qu'il partage. Eh bien, il en est de même dans le monde spirituel, c'est la même chose. Et ce qui est mal compris souvent, c'est que nous pouvons avoir autour de nous des bébés spirituels qui ont 50 ans d'âge naturel. C'est ça le problème, c'est que ça fait un décalage terrible. Vous voyez un homme, une femme qui a 50 ans, qui a de l'expérience, qui réussit, qui est formidable, mais dans son cœur, dans sa vie spirituelle, il a 3 mois. Et ça choque parce qu'il y a un décalage terrible. Il faut apprendre à bien le connaître pour pas... Parce que... On aurait tendance à penser que voilà, puisqu'il connaît la vie, ça fait 50 ans qu'il roule sa bosse, sur cette terre que, voilà, on peut tout lui dire, on peut lui faire complètement confiance. Dans les choses spirituelles, non, on ne peut pas. Ils sont immatures. Et alors, vous avez aussi des vieux chrétiens, des chrétiens qui traînent leur guêtre dans les églises depuis 10, 20, 30 ans, plus que ça même encore, et qui ont une maturité de bébé spirituel. Cassez tout, voilà. Alors, ça peut être très amusant. Ça fait rigoler, les bébés, moi ça me fait rire, je trouve super les bébés. C'est super un bébé. Amusant comme mon petit-fils, qui a 15 mois, et puis qui essaye de manifester son autorité et d'en apprendre à son frère qui a 11 ans maintenant. Ça fait rire de voir ce petit bout de chou qui ne sait même pas vraiment correctement parler, et puis qui met son petit doigt comme ça, qui fronce ses sourcils, et puis il veut lui apprendre quelque chose. Ça fait rire. Non, ça ne fait pas rire, bien sûr, c'est amusant. À un moment. Mais il peut y aussi avoir des souffrances. Parce que ça peut créer des déséquilibres dans la communion fraternelle, cette histoire de vie spirituelle immature et vie naturelle mature. Ça fait quelque chose de bizarre. C'est pourquoi il faut vraiment prier pour que Dieu accorde à ceux que nous aimons et qui sont immatures la maturité, bien que de toute façon, il faut du temps. Mais vous avez des gens qui sont très jeunes spirituels et qui ont tout de suite, qui ont compris, qui ont une communion avec Dieu et qui se rendent compte et qui vivent des choses très fortes et qui deviennent matures. Dieu le Père, il aime ses bébés spirituels comme il aime ses fils spirituels. Je vous ai déjà dit, une différence entre un bébé et puis un fils. Le fils, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Mais à notre niveau, si on regarde avec les yeux de la chair, alors ça peut créer des souffrances. C'est pourquoi Dieu dit qu'on doit marcher par la foi et non par la vue. C'est une des raisons. On ne doit pas marcher par la vue. Ce n'est pas parce que vous voyez une personne qui a 50 ou 60 ans que vous devez penser qu'elle est mûre spirituellement. Non. Le bébé, le chrétien immature, lui aussi, il peut se sentir mal aimé et incompris parce que, il va s'apercevoir que il n'est pas dans la confidence de tout, il n'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Et il peut se sentir mis un peu à part, et ça c'est une souffrance aussi. Le chrétien plus mûr, il peut se lasser momentanément de voir le bébé qui veut lui apprendre ce que c'est que la vie. Ça peut, bon, à un moment, ça commence à lui pomper l'air et ça devient difficile, vous comprenez? Le bébé, le chrétien immature, il ignore qu'il est immature. Il l'ignore, il ne sait pas. Comme disait Coluche, l'intelligence est la chose qui est la mieux départie parce que tout le monde juge qu'il est intelligent par rapport à l'intelligence qu'il a. Donc voilà, tout le monde se croit intelligent et c'est terrible. Mais c'est bien pour chacun, mais dans les relations, ça peut être difficile. Il ne va pas comprendre, entre guillemets, les grands qui ne veulent pas toujours jouer avec lui. C'est vrai que, moi je me rappelle quand j'étais un gamin, j'avais 2 ans et demi de plus que mon frère, il y avait un certain âge où mon frère, il me cassait les pieds, il voulait toujours être... Mais il avait 2 ans et demi de moins, c'était énorme. Maintenant que j'ai 60 ans, 2 ans et demi de moins, c'est rien du tout. Mais là, c'était très grave, 2 ans et demi. C'était vraiment, il m'empêchait de tourner en rond à cet âge-là. C'était très difficile pour moi. Mais bon, alors ça peut créer des tensions dans la communion fraternelle. Celui qui a plus de maturité, il est appelé par Jésus-Christ, à cause de l'amour, à se mettre au niveau du plus faible, du plus petit. C'est à celui qui est fort de se mettre en bas. Mais alors là, il peut surgir un nouveau problème, c'est que celui qui est plus faible, il est en train de grandir, et tout à coup, il va s'apercevoir, il dit, ouais, mais dis donc, il a une telle maturité spirituelle, et il se comporte comme ça, comme un bébé. Et il va juger celui qui est grand, parce qu'il ne comprend pas que celui qui est grand s'est mis à sa portée. Vous voyez, mes frères et sœurs, tous les problèmes qui peuvent arriver, tout simplement parce qu'on ne communique pas correctement avec spiritualité. Mais on continue à se comporter comme dans le monde. C'est très différent. Tous ces malentendus, ça ne vient que du fait que nous oublions de regarder la réalité. Et la réalité ne se voit pas avec les yeux. La réalité, elle est spirituelle. C'est spirituellement qu'on en juge. Vous avez des chrétiens de 50 ans de vie terrestre qui se comportent comme des bébés de 15 mois spirituellement ils ont tout à apprendre, mais comme des bébés, ils croient tout savoir. Ils ont une grande assurance. Hein? Quand on voit les enfants, ils jouent aux cow-boys, aux indiens, oh là là, ils se croient les plus grands, les plus forts, les meilleurs et tout, et puis vous leur faites boum, et ils se mettent à pleurer. Parfois, à la longue, ça peut énerver, et alors on a envie de les baffer, parce que ils se croient un petit peu trop par rapport à ce qu'ils sont dans la réalité. On les bafferait comme des sales gamins arrogants qui veulent nous faire la leçon, alors qu'ils ne sont même pas secs derrière les oreilles. Ça, c'est une expression suisse qui veut dire, vous savez, quand un bébé il est né, on le nettoie et tout, puis des fois, derrière les oreilles, ils oublient, alors on dit qu'il ne court pas sec derrière les oreilles. Tout ça, ça crée des difficultés, des problèmes relationnels entre croyants. Et plus on est ensemble, plus les problèmes deviennent aigus à cause de cela en particulier. Chacun est enfant de Dieu, mes frères et sœurs, et chacun est aimé du Père, mais pas de la même manière. C'est ça qu'il faut comprendre. Il nous faut comprendre ça. Observez les enfants naturels et vous allez voir qu'il y a le pendant de cela dans la réalité. Moi, je suis toujours frappé dans la communauté, une chose qui est typique, qui est vérifiable, c'est avec tous les enfants. Par exemple, au château, quand on prend notre repas, on a une quarantaine, il y a 12 enfants. Eh bien, qui c'est qui fait le plus de bruit? C'est la Michou? Non. C'est Rachel? Non. C'est les petits. Ils sont en train de... Mais quand ils ne savent pas parler, il faut toujours qu'ils hurlent. Hein? Il faut toujours qu'ils crient. Et je ne veux pas vous donner les raisons de ça, parce que mon but n'est pas de faire un cours de psychologie enfantine ce matin, mais simplement je vais vous dire que nous devons apprendre aux enfants à faire moins de bruit, mais on ne doit pas non plus éteindre la spontanéité de leur jeunesse et leur élan. Ils doivent vivre ces choses. Je vais souvent chercher mes petits-enfants à l'école, alors ça fait toujours rigoler. Qui est-ce qui saute en l'air dans la cour? Qui est-ce qui crie? Qui est-ce qui parle hyper fort? Est-ce que c'est la directrice? Non. Est-ce que c'est la maîtresse d'école? Non. Est-ce que c'est les parents d'élèves? Hein, Lucas, est-ce que tu vois les parents d'élèves faire « Ouais, là, là, là. » Non, c'est qui fait ça? C'est les enfants. C'est les enfants. Ils sautent, ils tombent, ils se relèvent, ils courent, ils crient, ils hurlent, ils se poussent, ils hurlent. C'est rigolo, à un moment. Hein. Mais c'est normal. C'est la vie, c'est normal. Ce sont des enfants. Et il faut laisser la nature s'exprimer. Mais heureusement, un jour, on se dit, heureusement, un jour, il va grandir. Moi, mon père, il avait dit à ma mère, et je l'avais entendu, « Oh, moi, pour le moment, c'est tes gamins. Quand ils auront 15 ans, là, ça sera mes amis. » Ouais, ben, il ne m'a jamais vu à l'âge de 15 ans. C'est ça le problème. Ainsi, il m'a vu 3 mois. C'était fini, il est décédé. Voyez-vous, heureusement qu'ils vont grandir, ces chrétiens, qu'ils vont se calmer. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils seront moins vivants parce qu'ils se seront calmés? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'ils seront moins vivants parce qu'ils font moins de bruit? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, nous avons tous l'amour du Père et nous pouvons tous nous en réjouir. Dans l'esprit du monde, il y a des conflits générationnels, mais il y en a aussi dans le monde de l'esprit. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, on disait « Salut les copains ». Eh bien, tous ceux qui avaient plus de 20 ans, c'était des croulants. On les appelait les croulants. Est-ce que vous vous rappelez, les vieux? On les appelait les croulants. Bon, maintenant, suis-je devenu un croulant? Ben, je n'ai pas l'impression, mais j'ai mûri par contre, j'ai mûri. Là où était le problème à cette époque, c'est que ceux qu'on nommait les croulants, ils ne cherchaient pas à nous comprendre. Ils ne cherchaient pas à nous comprendre. Ce n'était pas une époque où on cherchait à comprendre la jeunesse. Maintenant, la jeunesse a pris une telle place dans la société qu'on se met à chercher à comprendre les souffrances, les difficultés, les pourquoi, les comment, des machins, au sujet des jeunes. C'est bien. Mais ce que les vieux voulaient, les croulants, ils voulaient nous changer. Et ils avaient raison, on avait besoin de changer, on avait besoin de mûrir. On avait besoin de mûrir. Nous devions changer, nous devions mûrir. Mais voyez-vous, on ne fait pas mûrir artificiellement un ado. On ne le fait pas mûrir artificiellement. Ça vient tout doucement. Et un chrétien qui est immature, c'est tout doucement. Mais c'est la vie qui va s'en charger. Quand je dis que c'est la vie qui va s'en charger, je veux dire c'est Jésus qui va s'en charger. Parce que Jésus a dit « Je suis la vie » et c'est Jésus la vie qui va s'en charger. Je ne veux pas dire que c'est les problèmes qui vont se charger de... Parce que très souvent les gens se confondent, la vie et les problèmes. Ils disent « Oh, la vie c'est une tartine de... Hein? Voilà. Mais non, c'est pas vrai. Jésus est la vie. Mais bon, on a des problèmes. Mais c'est pas Jésus. Jésus se sert des problèmes, des impondérables, des trucs qui arrivent normalement dans la vie, pour que justement on puisse apprendre à se comporter d'une façon plus mûre. Jésus a dit « Je suis la vie » et il va se charger de nous faire mûrir en se servant de ce qui nous arrive, des impondérables, des choses de la vie. Les bobos, les chagrins d'amour, ah, les chagrins d'amour, ah, les chagrins d'amour, c'est terrible quand on est immature. Et puis les maux de toutes sortes qui peuvent arriver. Le pire pour moi, c'était, quand j'étais ado, d'être largué par une fille. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir largué une fille, comme on dit, de l'avoir quittée. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai pu être largué par les copines, c'était terrible. En fait, il n'y a que Michou qui est resté mon amoureuse éternelle. Mais les autres, toujours, on m'a largué. Moi, je n'ai jamais largué personne. Maintenant, je comprends pourquoi ça m'est arrivé. Ça m'a fait mûrir sur un point où j'allais avoir des problèmes par la suite, puisque c'est tellement des problèmes de relations humaine avec des gens qu'on aime. Vous voyez ce que je veux dire? D'être largué. Maintenant, quand je suis largué, ben, ça me fait toujours mal, mais moins longtemps. Moins longtemps. Parce que j'ai mûri, vous voyez? Et puis j'ai plus envie de me suicider, comme quand j'étais gamin. Je veux mourir. Même une fois, je vous rappelle, je voulais tellement mourir, je me cognais la tête contre une armoire, mais j'avais choisi le coin qui était un peu rond quand même. Parce que le coin qui était un peu aigu, ça faisait mal. Donc j'avais choisi un petit peu. Au bout d'un moment, ça m'a fait rire. Je dis, mais je suis idiot. Bien sûr, j'étais pas idiot, j'étais pas mûr, c'est tout. Est-ce que les épreuves de la vie m'ont endurci? Eh bien, non, je crois que elles m'ont fait mûrir. Et c'est ça qu'il faut. Il faut faire attention dans la vie. Il ne faut pas que les épreuves de la vie, les problèmes relationnels que vous avez avec les chrétiens ou avec vos enfants ou avec vos parents, que ça vous aigrisse, il faut, ou que ça vous endurcisse. Il faut que ça vous fasse mûrir. Il y a une différence. Et la différence, ça vient de. Ça dépend de tout. Comment est-ce que vous faites face à votre épreuve? Si vous y faites face avec spiritualité, ou si vous y faites face sans spiritualité. Votre Père, il vous aime. Il aime chacun de ses enfants. Et il veut que vous mûrissiez. C'est son grand désir. Le désir de tous les parents, c'est de voir leurs enfants grandir, devenir des hommes, des femmes, et d'être fiers. Oui ou non? C'est bien sûr. Et si vous ne mûrissez pas grâce aux épreuves que vous passez, eh bien, il va vous faire repasser encore et encore et encore et encore par les mêmes sortes d'épreuves jusqu'à ce que vous compreniez la leçon et que cela vous fasse mûrir. Jusqu'à ce que vous deveniez mûr, c'est-à-dire tendre, malléable et utilisable à son service. On va lire Jérémie 18, 2 à 6. Jérémie 18, 2 à 6. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, le potier travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Voyez, mes frères et sœurs. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir avec vous comme le potier? Et c'est comme ça que Dieu agit avec nous. Il est en train de nous façonner, puis ça ne marche pas. Ben, vous avez vu un potier, comment il fait? Il ne dit pas, oups, oh, que vais-je faire? Oh, que je suis triste. Non, boum! Il écrase le machin, et puis il recommence. Il mouille un peu, puis il recommence, puis voilà, puis c'est tout, c'est pas une affaire. Bon, nous, on est un peu écrasés par moments, mais voilà, c'est dans un but, c'est celui de faire de nous un vase qui puisse être un vase qui soit utile entre les mains de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut faire une chose importante, c'est plus de pas seulement croire, mais plus, pas seulement croire que Dieu est avec vous. Ça, c'est une étape. Je crois que Jésus est avec moi. Ce qu'il faut, c'est mettre en pratique l'idée de la présence de Dieu. Mettre en pratique l'idée. Il faut s'exercer à croire que Dieu est tout aussi réel que vous êtes réel. Il vous faut vous exercer à lui parler, à lui confier votre vie, à vous confier en lui, le faire régulièrement. Croire qu'il vous entend. Croire non seulement qu'il vous entend, mais d'une façon attentive, il est attentif à ce que vous lui dites. Il faut le croire. Il vous faut tenir pour acquis qu'il va suggérer à votre esprit les conseils dont vous allez avoir besoin, qui sont susceptibles d'arranger vos bidons. Il faut, après avoir parlé, après avoir cru, après avoir, il vous faut écouter ce que l'Esprit vous chuchote. Il faut croire de façon absolue que ces solutions ne comportent aucune erreur. Ça, c'est la foi. Si vous croyez ainsi, vous allez donc croire que vous êtes guidé et que vous avez le meilleur guide au meilleur moment et de la meilleure manière qui soit. Si vous avez cette sorte de foi. Maintenant, je voudrais vous dire un mot qui est très souvent mal utilisé ou mal compris. C'est le mot « réaliser ». Le mot « réaliser », ça signifie « rendre réel ». Rendre réel, écoutez ça bien. Dieu est avec vous et même il est en vous. Réalisez cela, c'est-à-dire rendez cela réel. Rendez cela réel. Quand on dit « Ah, j'ai réalisé que Dieu est avec moi », ça ne veut pas dire « Ah, ben tout d'un coup j'ai compris ». Non, ce n'est pas une question de comprendre, c'est de rendre réel. Il faut que vous rendiez réel, que vous mettiez dans l'état où vous rendiez la présence de Dieu réelle avec vous. Je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas non plus un idéaliste, mais je peux vous dire une chose, Dieu est avec vous, et quand vous lui demandez de solutionner un de vos problèmes, que vous soyez mûr ou immature, il ne va pas le faire lui-même. Très souvent, il ne va pas faire ça lui-même. Ce qu'il va faire, il va vous donner l'idée. Si vous écoutez bien ce que je vous enseigne, vous allez comprendre que ce que le Seigneur fait la plupart du temps, c'est que quand vous vous confiez en lui, il enlève le stress, il enlève la panique et il met la paix, ce qui vous permet de l'entendre. Mais il ne va pas arranger les bidons d'un coup de baguette magique. Il le fait, mais c'est rare. Ce qu'il veut, c'est agir en communion avec vous, que vous fassiez votre part et que lui fasse la sienne. Et lui, étant donné qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il connaît l'avenir, il peut vous suggérer les choses afin que vous les fassiez et que vous les fassiez dans la paix. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans le calme et dans la confiance, c'est là que se trouve ma force. Et il veut que vous soyez fort pour... Alors il vous donne cette paix dans les moments où vous vous confiez en lui. Comme, si vous faites ce que je vous ai enseigné ce matin, eh bien, vous allez être dans l'état de réaliser, de rendre réelle sa présence, et dans la paix, il va vous suggérer, il va vous chuchoter la solution à votre problème. Vraiment, mes frères et sœurs, il va vous donner l'idée qui conduit à la délivrance. Alors, ne vivez pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Il est avec vous, il est même en vous, mais vous êtes trop bruyants. Comme les gamins dans la cour de récréation, vous êtes trop bruyants. Taisez-vous. Écoutez un peu. Mettez-vous dans un état où vous pouvez rendre réelle la présence de Dieu avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réellement avec vous, mais il faut que ça soit réel pour vous. Il faut que vous en ayez conscience. Rendez cela réel par votre foi et l'obéissance en ce que je vous dis, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, veuille bénir cette parole et permettre que mes frères et sœurs puissent aller de l'avant avec et grandir, faire des exercices spirituels, pour arriver à être ces gens sur lesquels tu peux compter dans ton œuvre. Merci mon Dieu, parce qu'ils vont pouvoir ainsi de mieux en mieux prendre part à ton œuvre, être efficaces dans ton œuvre, et non pas simplement efficaces dans les bonnes œuvres de ce monde, mais dans ton œuvre qui est l'Église. Merci Jésus. Amen. Amen.